Atelier Julia Kristeva, vous recevez avec nous vos invités, c'est la règle d'or du Grand Atelier. Nous avons deux psychologues cliniciens. Bonjour monsieur, bonjour madame.
Bonjour.
Samuel Doc, vous exercez à l'hôpital Robert Debré toujours ?
Je n'y suis plus.
Où est-ce que vous exercez ?
J'exerce en libéral à Paris et j'ai aussi une activité à Corbeil-Essonne dans un service qui propose des aides éducatives à domicile à des parents.
Et vous, Karen Mock-Guitain, vous exercez où ?
J'exerce à Paris aussi, dans le milieu médical, hospitalier.
C'est quoi un psychologue clinicien, Karen ?
Grande question, question large, mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui accompagne, qui écoute des patients et qui a un projet thérapeutique avec eux.
Et qui vient vous voir, par exemple ?
Ce sont des patients qui sont plutôt des adultes, qui souffrent de maladies chroniques, qui sont par exemple en insuffisance rénale chronique. Donc c'est des patients qui viennent régulièrement en dialyse et qui ont des difficultés à accepter cette maladie, cette annonce qui réduit leur vécu beaucoup au corps et au somatique.
Donc vous les aidez ?
Oui, à psychiser, à penser et à ne pas rester dans le tout corporel et somatique.
Alors on va écouter de la musique, Julia Kristeva, dans votre grand atelier, celle que vous aimez, celle que France Inter soutient, met en avant, comme le nouveau titre de Louis Chédid, qui ne va pas déplaire aux psy que vous êtes, tout ce qu'on veut dans la vie.
À baiser rien qu'un seul, aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cil, écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal, parfois, parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Dans la vie, c'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Qu'on veut dans la vie. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie.
J'aime bien cette formule toute simple, tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on vous aime. C'est ça Samuel Doc, ce qu'on vient vous dire quand on vous consulte.
Oui, et puis le psychanalyste Jacques Lacan disait « Toute demande est toujours une demande d'amour » et je trouve que c'est très beau et très juste.
Il y a beaucoup de gens en manque d'amour qui viennent vous voir, Julia Kristeva.
Mais oui, absolument, mais ils trouvent ce qu'on appelle l'amour de transfert. Il faut que je sois capable de leur donner ça, ce qui passe par la confiance, ou plutôt ça s'appuie sur la confiance, le respect, la croyance dans leur folie, dans leurs rêves. Pour nous, c'est une réalité psychique qui vaut une autre, et même qui est supérieure à toute autre.
Ça ne veut pas dire que vos patients tombent amoureux de vous.
J'espère que si. Mais il tombe amoureux, mais je ne le laisse pas approcher davantage. Comment? Pas corps à corps et pas bouche à bouche, là, comme dit la pièce qu'on vient d'entendre. Mais j'essaye de les rendre à leur être pour qu'ils construisent, les analysant, d'autres êtres avec d'autres. Je crois beaucoup à la pluralité du monde. Et chaque passion est une singularité qui, en passant par son analyse, retrouve les autres. Donc, dans mon histoire d'amour, je trouvais que ce mot est très polyvalent. J'essayais de lui trouver tous les sens en passant par Freud, qui fait de l'amour une manière de se connaître et aussi d'apprendre à parler et à penser.
Samuel Doc, vous avez écrit avec Julia Kristeva « Je me voyage ». Ce sont les mémoires, en tout cas les premières mémoires de Julia Kristeva, et on parlait d'amour. Moi, je trouve que ce livre, c'est un dialogue amoureux que vous assumez parfaitement. Est-ce que cet adjectif est excessif ou vous convient?
Je m'interrogeais justement en arrivant sur le plateau d'émission sur ce que je ressentais pour Julia Kristeva, et j'avais envie de dire dans un premier temps admiration, mais finalement, il y a quelque chose d'un peu désincarné dans l'admiration, d'un peu abstrait, et on admire ce qu'on ne comprend pas.
Oui, puis je vous ai demandé de pas trop vous dire que vous vous aimiez, voilà, et admirez. Hein.
Voilà, surtout qu'il faut bien le dire, Julia Kristeva admet et encourage le désaccord, et on peut parfois être en désaccord sur certains points, et c'est comme ça que la pensée est vivante. Mais oui, tout à fait, il y a un aspect nécessairement amoureux. Il faut être amoureux pour cheminer vers la pensée étrangère de l'autre, vers cette altérité. Il faut être amoureux pour lire toute une œuvre. Donc j'étais un peu impressionné, et c'est par l'affect, par une certaine forme de tendresse que j'ai pour Julia Kristeva, que j'ai surmonté ça. Après, il faut aussi dire qu'elle a le don de mettre les individus qui sont face à elle très à l'aise, malgré ce regard que vous avez saisi tout à l'heure. Et ça, c'est, je crois qu'on parle souvent de l'intellectuel, des prix qu'elle a reçus, des livres qu'elle a écrits. Pour moi, Julia Kristeva, c'est beaucoup de gentillesse. Et c'est cette dame qui, lorsque je devais travailler avec elle, me faisait des tartines. Voilà, je le dis, de confiture pour que nous puissions justement travailler. Et je mangeais quelque part ses paroles et je mangeais aussi les tartines.
Elle a dû sentir qu'il y avait toujours un petit garçon en vous qui avait envie d'exister toujours.
C'est fort probable, puisqu'elle a cette intuition extraordinaire des personnes qu'elle rencontre.
Vous me devez 150 euros.
Voilà, oui, je lui dois beaucoup plus que ça d'ailleurs, je pense, tellement elle a marqué mon existence. Mais oui, c'est peut-être sur cette question de la filiation que je me suis retrouvé. C'est-à-dire que moi, je me définis ni comme psy, ni comme écrivain. Je ne sais plus tellement ce que je suis, et je me rends compte que tant mieux, puisque c'est ça qui permet de faire vivre le sens. Le sens qui n'est pas quelque chose d'arrêté, c'est une narration, c'est une histoire qu'on se raconte finalement.
Le sens est sensible.
Je sens que vous êtes aussi bavard que Julia Kristeva, qui m'a dit « moi je parle pas en SMS, je parle en oratorio ». Quelle belle formule poétique. Kiren Mok, n'hésitez pas à prendre la parole et le micro. Ça a été votre prof, Julia Kristeva?
Oui, je l'ai rencontrée en 2006, à la suite d'un échange qui se tenait à Sainte-Anne, où j'étais stagiaire. Et c'est Sylvie Courtine, qui est philosophe,
qui a beaucoup travaillé sur Hannah Arendt. Nous sommes rencontrés avec Sylvie Courtine de Namy sur Hannah Arendt, dont elle a fait la biographie en français.
Et sur qui vous avez écrit en tant que génie féminin.
Génie féminin, oui.
Je vous laisse poursuivre.
Et donc, m'a proposé d'échanger avec Julia Kristeva au sujet du terme de liberté en hébreu. Parce que Julia Kristeva devait justement assurer une conférence en Israël.
Et je précise que vous êtes née en Israël. Hein.
Je suis née en Israël.
Vous êtes la fille d'Amos Gitai, le cinéaste.
Oui, et je me disais, qu'est-ce que moi, étudiante de 25-26 ans, je pourrais enseigner, apprendre à Julia Kristeva? Et je dois dire que j'étais justement, le regard de Julia Kristeva m'avait un peu terrifiée. Et j'ai été très touchée par sa curiosité, par son écoute, par sa sensibilité. Et j'ai été tout de suite à l'aise avec elle, et on a pu poursuivre donc ce dialogue et cet échange au travers d'une thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a quelques années.
En voilà un autre qui lève la main, c'est Samuel
Doc. Non, je ne le fais même pas la main, mais ce que je me dis en écoutant Keren, c'est que c'est un immense, évidemment, un immense privilège de travailler avec Julia, mais c'est aussi une grande responsabilité. Moi-même, je suis doctorant à Paris 7, où Julia a exercé, et je peux vous dire que oui, je sens bien que Samuel, ah oui, celui qui a fait le livre avec Julia, on m'attend au tournant. Je peux vous dire que quand je vais soutenir ma thèse, je ne ferai pas le malin. Il faudrait être à la hauteur.
Julia Kristeva, on sent que vous aimez être entourée de jeunes chercheurs et de jeunes psychologues en l'occurrence, qui peut-être un jour pourront devenir psychanalystes. Qui sait? Pourquoi vous aviez envie de faire venir dans votre grand atelier la jeune génération?
Mais écoutez, je suis toujours en question. La culture française aime le point d'interrogation. Et je suis parfois peinée dans des situations où cet amour du point d'interrogation se crispe en haine, en revendication ou en mesures techniques. Et j'ai eu la chance, Roland Barthes, qui était pour moi un grand écrivain, a eu l'humilité d'assumer le poste de professeur, qu'il traitait avec beaucoup d'ironie. Moi, j'ai pas son ironie pour traiter cette fonction, mais j'ai la curiosité qui constate, ou essaye de constater chez les jeunes qui viennent me faire confiance, une curiosité et une capacité de se mettre en question, de trouver ce qui est pour moi l'essence, si on peut parler encore en ce terme absolu, de la culture française et de la culture européenne, qui est ce point d'interrogation, cette ouverture. Et Keren, et Samuel n'était pas mon étudiant, mais je reviendrai à lui tout à l'heure, Keren a voulu faire une thèse qui est, finalement est devenue un monument de, je sais pas, 700, 800 pages sur l'hébreu langue maternelle. Donc, on passe par l'hébreu. Elle fait des entretiens avec des grands écrivains comme Appelfeld ou Sami Mikael, qui lui parlent de comment ils ont adopté l'hébreu langue seconde, mais qui est devenue maternelle pour qu'ils puissent dire le fond du cœur à travers cette langue. Après, je lui dis, mais il y a quand même l'hébreu qui était inventé, l'hébreu nouveau par Ben Yehuda. Elle a fait des études dans les bibliothèques de Genève sur les manuscrits de Ben Yehuda et comment il a inventé cet hébreu moderne pour arriver à Spinoza. Et donc, elle est devenue une femme savante qu'on s'arrache à l'université de Stanford et ailleurs.
On va parler
et en même temps, mais laissez-moi dire ça.
C'est l'oratorio, c'est pas le SMS.
Mais absolument, parce que c'est les psychanalystes, on se dit, c'est des gens qui sont dans les papiers, qui font des thèses ou qui font des patients pour faire plus ou moins d'argent. Ils sont impliqués sur le grill. Elle est là où il y a de la souffrance avec les gens qui ont des maladies rénales ou d'autres. Lui, je l'ai trouvé extrêmement enthousiaste et l'enthousiasme dans cette génération, elle ne sait pas où atterrir. Il a atterri dans l'écriture. L'écriture comme enthousiasme, c'est rare et c'est à favoriser quand on fait des manifs dans la rue. Manifestez, mais essayez de manifester ça dans votre écriture. Et il le fait. D'ailleurs, j'avais peur qu'il me demande qu'est-ce que je pense de la police aujourd'hui, mais voilà, c'est un autre sujet.
Oui.
Donc, on est constamment en train de parler du politique.
Ils auront toute leur place dans votre grand atelier, Julia Kristeva. Non, je voulais vous poser des questions sur la jeune femme, Julia Kristeva, qui arrive de sa Bulgarie natale en France et qui constate qu'en France, de la Bulgarie, on ne sait quasiment rien. On parle des yaourts bulgares et de Sylvie Vartan, compatriote. Mmh. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va écouter Sylvie Vartan. Et son tube, quel est-il ?
Je sais pas, je le connais pas.
Le tube de Sylvie Vartan.
Mais ça doit être avec Johnny quelque chose.
Mais non, la Maritza.
Ah mon Dieu.
La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne.
Vincent Josse, sur France Inter.
Keren Mok, je vous appelle Keren Mok ou Keren Mok Gitaï ?
Comme vous voulez.
Comme je veux, je vais vous appeler Keren Mok. Après tout, vous n'êtes pas que la fille de votre père. Comment vous arrivez-vous à la psychologie, à la psychanalyse, à la thèse que vous avez soutenue avec Julia Kristeva ? Ça entre comment, si je puis dire, cet univers dans votre vie et cette passion sans doute ?
Écoutez, je suis née en Israël, mais j'ai grandi entre deux pays. Et le fait d'avoir grandi entre deux pays a suscité en moi un intérêt de recherche qui s'est transformé en intérêt de recherche, qui est la question de la langue maternelle, qui pour moi c'est l'hébreu.
Qu'est-ce qui s'est posé à vous comme question justement là-dessus ?
J'ai grandi dans un pays où des gens venaient de lieux différents, venaient de cultures différentes, parlaient des langues différentes, et finalement, toutes ces langues et toutes ces cultures ont résulté en la création de l'État d'Israël, et certaines de ces cultures, de ces langues ont été effacées. Et c'est en venant en France et en faisant mes études de psychologie que je me suis intéressée à la question de la langue, et donc à la question de la langue maternelle. C'est par ce regard extérieur, en venant du français, que j'ai pu regarder, observer l'hébreu de façon plus extérieure.
Dans votre tête, il y a du français ou il y a de l'hébreu surtout ?
Il y a des deux. Ça dépend avec qui je parle, où je suis. Ça varie. Parfois, il y a de l'anglais aussi qui émerge.
Parce que Julia Kristeva dit souvent qu'elle perd son bulgare natal, qu'il s'éloigne, que depuis des années, vous rêvez par exemple en français.
Oui, je crois que depuis que j'ai fait une psychanalyse en français, mon analyste était d'origine allemande et parlait en français, et le français était une langue donc, que j'avais apprise à partir de 5-6 ans, donc restait quand même une langue étrangère. Et j'ai intégré les couches infantiles du français, me racontant mon histoire de bébé et de petite fille en français et en lui donnant donc ces mots qui m'ont permis après à parler en français pour le langage de bébé de David, mon fils, et aussi d'écrire des romans. Donc le bulgare, je l'utilise pas dans la mesure où j'ai eu, est-ce que c'est une épreuve ou une chance? C'est ce que je dis, j'essaie de mesurer dans mon livre sur l'étranger. J'ai eu l'épreuve et la chance de participer à la culture française. Quand je suis arrivée à la veille de Noël 65 ou début 66, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers en France et le milieu culturel de Roland Barthes, Goldman et surtout tel quel Philippe Solers et ses amis m'ont accueilli comme quelqu'un d'égal à eux. Et donc cet atterrissage m'a permis d'oser, de ne pas avoir de frein pour essayer de m'exprimer en français. Ça a été accueilli avec beaucoup de bienveillance. J'ai fait ma première conférence au cours de Roland Barthes sur Bakhtine, justement, qui parlait de Dostoïevski, et ça va me conduire à faire un livre sur Dostoïevski qui sort maintenant. Donc, je me suis intégrée, si croit-on, vu de loin dans les cultures françaises, mais toujours avec ce sentiment d'étrangeté. Ce qui fait que le bulgare reste cette étrangeté, je l'entends dans mon intonation.
Vous restez une étrangère ?
Je pense que je resterai toujours une étrangère. Mais on me prend pour une française à l'étranger. En France, je serai toujours étrangère et je trouve que c'est une épreuve et une chance parce que ça permet d'être, comme le disait Keren tout à l'heure, à côté d'eux. Et c'est justement dans cette marge qu'on pense. C'est Hannah Arendt qui l'a trouvé. La marche ou la position de la vie qui pense est une vie étrangère. Il faut se décaler du même qu'on est pour penser ce même. Ou l'autre. Mais ce décalage, l'étranger là, et c'est son cadeau, son miracle.
Keren, vous êtes française et israélienne aujourd'hui ?
Oui, et oui. Je me reconnais dans ce que dit Julia Kristeva, dans la mesure où je suis une étrangère, et c'est d'une étrangère à une autre étrangère aussi, qui, je pense, permet de comprendre une problématique qu'on a en commun, qui est aussi intime, qui est aussi personnelle, qui a permis de poursuivre ses recherches sur l'hébreu, nouvelle langue maternelle. Comment est-ce qu'on la crée ?
Se sentir étrangère en France, c'est sentir quoi ?
C'est-à-dire que quand on a grandi entre deux pays, entre plusieurs langues, entre plusieurs cultures, eh bien, on appartient à ces cultures, mais on est un peu étranger quand même. On est quand même, on a un petit accent, comme c'est mon cas. On peut faire quelques erreurs de grammaire, ça peut être mon cas également. Mais je pense que cet écart, il permet d'être créatif. Il permet de penser autrement les choses.
Vous qui êtes, je crois, français de naissance, Samuel Doc, vous avez passé de longs mois à interroger, à accoucher à la parole de Julia Kristeva. Interviewez-vous une étrangère qui vit cela comme finalement une grâce ?
Je suis pas certain de comprendre votre question, mais ce qui est certain, c'est que oui,
chance, parce que je disais que c'est une chance. Oui, étranger.
Je vois, mais pour moi, ce sont finalement des. Il y a un côté un petit peu abstrait dans cette étrangeté dont on parle.
Parce que Julia Kristeva a toujours parlé de l'étrangeté.
Moi, si je pense à une étrangeté, je pense à l'étrangeté psychique, la façon dont on peut devenir étranger à nous-mêmes, que l'on soit étranger ou qu'on ne le soit pas. Et je crois que c'est cette expérience hors langage qui préfigure tout travail psychanalytique, le début de toute cure. On a parlé de la langue, on a parlé des écrivains, on a parlé un petit peu de linguistique. Moi, si je pense au début de la psychanalyse, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement brutal. Il est souvent question de la survenue d'un symptôme, de quelque chose qui vient nous interroger viscéralement, corporellement. Et c'est ça qui nous conduit à démarrer le travail, la cure psychanalytique. On souhaite être sauvé, on souhaite trouver un langage sur notre étrangeté.
C'est drôle parce que le psy prend le dessus, là. Vous entendez, Julia Kristeva. Samuel Doc a passé des semaines, des mois à vous interroger, à vous faire parler, notamment de votre enfance, notamment de votre adolescence et de votre pays. Et cet étranger-là, vous ne le citez pas.
Ah, je m'en suis pas du tout rendu compte.
Il y a de longues pages sur la jeunesse de Julia Kristeva.
Parce qu'en fait, moi, je crois, pour être vraiment honnête, que j'ai jamais vu une étrangère en observant Julia. J'ai vu une personne qui m'était familière sitôt que je l'avais rencontrée. J'ai vu quelqu'un qui m'a permis de donner forme à mon indocilité, quelqu'un qui brise les idéologies, qui repousse tout le temps la pensée un petit peu plus loin, qui ne s'accorde pas sur cette civilisation de l'image, qui ne pense plus. Voilà, pour moi, Julia, vous n'êtes pas du tout étrangère. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement familier.
Mais écoutez, moi, on vous écoute, je pensais que on assiste là avec vous à quelque chose que j'appelle moi le citoyen européen, une identité de genre d'une génération globalisée et en particulier en Europe où, encore une fois, par certaines choses qui sont des réussites de l'Union européenne, par exemple l'Erasmus, il y a cette circulation d'étudiants, il y a le fait qu'on peut aller étudier même sans être étudiant ou travailler ailleurs, quand même dans un cadre relativement protégé parce qu'il n'y a plus la guerre, c'est la paix. Ce citoyen européen, c'est un être multivers. C'est pas un univers, l'Europe, c'est un multivers, pour prendre une métaphore astrophysique. Et moi, je me sens profondément européenne. Quand vous me demandiez est-ce que je suis étrangère, j'inclus cette étrangeté. Et pour ces personnes-là, ces étudiants, cette jeunesse, l'étrangeté fait partie d'eux-mêmes. Donc, ils me voient pas comme une étrangère parce qu'ils sentent leur propre étrangeté au niveau de la langue, au niveau de la sexualité, au niveau de toutes sortes de obsession ou désir qu'ils ont. Et donc, ça me paraît être le don le plus précieux que l'Europe donne au monde aujourd'hui. Parce que je pense que la Chine aujourd'hui se barricade. Le monde arabe est ce qu'on sait. En Israël, il y a des problèmes. L'Europe, avec toutes ses failles et ses impossibles, crée cette multiplicité dont la langue et la musique, en fait. Et moi, vous m'avez demandé de vous parler d'un musicien. J'aurais voulu l'inviter, mais c'est un grand monsieur, Barenboim, qui a dirigé la 7e symphonie de Beethoven au moment de la chute du mur de Berlin. Pour moi, c'était un miracle de ma vie, un moment clé de mon existence.
Vous étiez là-bas?
Non, j'étais pas là-bas, mais j'écoutais d'ici. Et il faisait ce concert face aux Allemands de l'Est. Et tout l'Est s'est senti entrer dans l'Union européenne, devenir européen. Et on n'était plus étranger, on était européen. Et lui, qui dirigeait en jouant au piano le concerto numéro 1 de Beethoven, je crois, c'était pour moi la langue de l'Europe. Et vous savez, on parle de Dostoïevski, mais en lisant, avant de venir, certaines pages de Dostoïevski, il se croit être le grand européen, il pense que les Russes seuls peuvent être européens, et on ne sait pas que Karamazov récitait Schiller, et l'ode de Schiller, qui va être l'ode de la joie, qui va nourrir l'hymne européen. Sauf que les Européens ne s'entendent pas sur quelle langue on va mettre là-dedans. Et au lieu d'avoir une hymne européenne en langue, on n'a que la musique. Donc l'Europe n'existe que par la musique.
Eh bien, puisque vous citez ce fameux concert de 89 avec Barenboim au piano et à la direction, comme à son habitude, avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, je vous propose d'écouter un extrait du mouvement Allegro de ce fameux concerto numéro 1 en ut majeur, opus 15. Thank you.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Pendant un certain temps, on a pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose. Mais ça n'est plus très répandu. Le comble du comble, c'est qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. En quoi ils ont tort? Alors justement, ils en savent un bout. Exactement comme pour l'inconscient, dont c'est la véritable définition. Ils ne savent pas qu'ils le savent.
Voilà, Jacques Lacan, en 1972, vous souriez, Karen Mok.
Oui, je me demandais qui parlait de la sorte, et je suis très étonnée de découvrir qu'il s'agit de Jacques Lacan.
On parle souvent en psychanalyse de Freud et de Jacques Lacan, on se limite un peu à ces deux analystes-là. Samuel Doc, Lacan.
Oui, Lacan, c'est vrai que même encore aujourd'hui, on a l'impression parfois que la France s'est un petit peu arrêtée à Lacan, à ses interprétations, surinterprétations de Freud. Et alors là, je veux pas du tout faire mon lèche-botte, c'est pas dans mon tempérament, mais s'il y a une chose que j'apprécie chez Julia Kristeva, c'est justement qu'elle a permis de dépasser un petit peu cette espèce de fixation-régression à Jacques Lacan et qu'elle a ouvert la porte du cabinet en réintroduisant la clinique, c'est-à-dire le rapport aux patients dans ses écrits, en parlant de l'Europe, en parlant de politique, en parlant de littérature, en parlant d'art, en s'emparant complètement du monde. Et c'était le projet de Freud. Freud n'a jamais voulu enfermer les analystes sur le divan et bien sûr ni les analysants. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très très remarquable dans la pensée de Julia Kristeva. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire avec mon livre Éloge indocile de la psychanalyse, être indocile à cet autisme psychanalytique. Voilà. Donc parfois on me demande, on me dit mais Samuel, t'es freudien, t'es lacanien, t'es quoi? Et ben je réponds, moi, j'essaye d'être christévien. Voilà.
C'est un bon élève, hein, Samuel Doc.
C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Nous avons travaillé ensemble sur ce livre parce qu'on ne se prenait pas au sérieux. On essayait d'être dans le sérieux. C'est peut-être la chose qu'on peut définir d'un seul mot que donne la psychanalyse. Et Lacan avait ce sens du ridicule de l'existence humaine. Quand elle n'est pas tragique, et elle l'est, il vaut mieux dire qu'elle est comique. Et il le fait très bien.
Comment vous réagissez à ces propos qu'on vient d'écouter?
Eh bien, écoutez, ça, moi, je n'étais pas étonnée que ce soit lui parce que j'entends encore sa voix. Et j'étais fidèle des séminaires.
Ça, c'est une voix de 1972.
Eh bien, je devais être encore au séminaire. Je ne sais pas lequel c'est, mais je fréquentais avec Solaire, sans fréquenter le séminaire, jusqu'au moment où il devait venir avec nous en Chine. Et c'était l'époque aussi où il dissolvait son école et on parlait de choses et d'autres. Et il m'avait invité à son séminaire, je ne pouvais pas y aller parce que David faisait ses dents, je n'avais pas dormi la nuit, etc. Et il m'a dit, vous faites bien, vous n'êtes pas faite pour les écoles. Et ça m'a ouvert, venant de lui, qui quand même a organisé sa postérité de manière très précieuse et précise, de dire à quelqu'un qu'il sentait que c'était pas la voie qu'il m'a signée, ça m'a donné peut-être beaucoup de courage et beaucoup de désir de faire mon chemin. Et Samuel, que je n'ai pas suivi dans son travail d'étudiant ni de psychanalyste, mais dont je suis l'écrit, je pense qu'il transmet cette ouverture de ce que Lacan nous a donné vers la langue, vers l'histoire des idées, vers la théologie, vers l'histoire des religions. La psychanalyse était fermée à tout ça. Grâce à Lacan, ça s'est ouvert. Et moi, je le trahis, si on veut, mais je le trahis en allant dans le sens de ce qui me semble être aussi son message « Ouvrez-vous au monde ».